Il est 4h, vous écoutez Phare FM, ce lundi 8 juin, bienvenue sur la radio Autrement. C'est la nuit Autrement qui vous accompagne jusqu'à 5h.
En effet, voici le message que vous avez entendu depuis le début. Aimons-nous les uns les autres.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
C'était All My Love de Hollin sur Phare FM, il est 4h07. Bienvenue ce lundi 8 juin, vous écoutez la radio Autrement dans la nuit Autrement et on est encore ensemble pendant une petite heure, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un beau réveil et je vous souhaite aussi une très très bonne semaine. Pain de vie tout à l'heure avec Mathieu Perrault, le thème sera une oasis dans le désert et un peu plus tard les langages de l'amour et de la musique. NG Girac, Undos 13, on l'écoute maintenant.
Minuit 5h.
La nuit autrement.
Avec Mireille.
Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás. Elle, qui fait tout pour les siens, qui a le cœur sur la main. Elle n'oublie jamais rien pour ce qu'elle aime. Elle a cet air bohémien, quelque chose de divin. Quelque chose qui la rend exceptionnelle. Sans détour, elle donne de l'amour, même si elle te connaît pas. Belle comme le jour, ça rayonne autour d'elle, c'est ce qu'on appelle l'aura. Elle est sans détour, elle donne de l'amour, elle me quitte quand je m'égare. J'attends son retour, elle me manque toujours chaque fois qu'elle s'en va. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante. Elle est la flamme qui t'éclaire dans la nuit. Quand il y a une vague que tu cherches ton guide, elle a les mots pour faire taire les avis des autres. Elle est la femme, la mère ou l'amie. Comme un repère, une lumière dans ta vie. Elle sait comment te faire sourire, c'est toujours un sans faute. Elle est sans détour, elle donne de l'amour, même si elle te connaît pas. Belle comme le jour, ça rayonne autour d'elle. Elle est sans détour, elle donne de l'amour, elle me guide quand je m'égare. J'attends son retour, elle me manque toujours chaque fois qu'elle s'en va. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Pasito para atrás.
Light.
place maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Mathieu Perrot.
Je vais essayer d'être le plus court possible, le plus soft possible, tellement ça brûle au-dedans de moi. Mais j'aimerais vous donner une clé particulièrement puissante ce matin pour chacune de nos vies. Une clé, en fait, je vais pas vous la donner, en vrai, parce qu'en vrai, vous l'avez déjà. En fait, je vais juste la révéler dans vos vies. J'aimerais que vous puissiez comprendre qu'en vous-même, il y a une clé puissante que vous avez chacun, et que si vous la développez, il y a quelque chose qui va se passer dans vos vies, et une oasis va sortir de votre désert. Vous savez, on vit toutes sortes de situations dans nos vies, et je crois qu'on est appelé à vivre et à transformer nos déserts en oasis. J'aimerais vous dire, dans vos propres vies, des fois on traverse des déserts, des fois on traverse des situations compliquées, des situations difficiles, des moments, vous savez, où vous vous levez le matin et puis vous savez que de toute manière il se passera rien à part de l'aridité, de la sécheresse. Vos problèmes vont continuer, vos relations avec votre famille vont être compliquées, au travail ça va être galère, vous savez que le frigo va pas se remplir, vous avez ce stress qui est continuel, cette période de votre vie. Alors il y a plusieurs saisons, on vit pas que des saisons comme ça, mais on traverse et déserts. J'aimerais vous dire qu'au fond de vous-même, la Bible nous le dit, il y a une clé que nous avons, une clé puissante au fond de nous-mêmes. En nous-mêmes, nous avons cette capacité de créer une oasis dans le désert. C'est le psaume 84 qui nous le dit. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur, c'est en eux, des chemins, des solutions tout tracées. Et lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, la vallée des pleurs ou la vallée de Baca, selon votre traduction, ils la transforment en un lieu plein de sources. Une autre traduction dit, ils en font une oasis. La solution est en eux. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur. La solution, elle est là. Et j'aimerais vous dire, de manière très, très affectueuse, vraiment avec tout mon amour, toute la solution que tu cherches et toutes les solutions que tu cherches un petit peu partout à ton problème, j'aimerais te dire, elle est en toi. La solution, c'est dans ton cœur. Dans ton cœur, il y a des chemins tout tracés. Si tu sais développer la clé que je vais te donner ce matin, que tu as déjà, mais si tu sais la développer, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils transforment la vallée des pleurs, ils transforment leur désert, ils en font une oasis. Est-ce que ça vous parle ce matin de transformer vos déserts en oasis? Je sais pas si vous avez déjà traversé un désert ou vous avez déjà traversé une plaine qui est désertique. Puis tu sais, t'as soif et là t'aimerais bien qu'en un claquement de doigts, il y a un robinet qui apparaisse, un puits, une fontaine, mais t'aimerais boire. J'aimerais te dire, dans ton désert, il y a une oasis pour toi dans ton désert. Elle est en toi. Et cette clé, j'aimerais le commencer rapidement, c'est le psaume 84 qui nous le donne. Une oasis dans le désert, le psaume 84, vous lirez l'ensemble, mais les versets qui sont dans ce psaume nous disent « Mon âme soupire après les parvis de l'Éternel. Heureux ceux qui habitent dans ta maison pour te célébrer. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Et la clé, en fait, elle est toute simple, les amis. C'est de développer une louange passionnée. Lorsque tu développes une louange passionnée, tu as cette capacité en toi-même, de développer une oasis dans le désert. Alors je sais que depuis tout à l'heure je parle de désert, je sais que nous sommes en été, qu'il fait chaud, et que certains agitent. Dites à votre voisin, c'est que dans ta tête la chaleur. Ça va bien se passer. Vous avez cette capacité en vous-même de créer une oasis dans le désert, en développant une louange passionnée. Et quand je dis développer une louange passionnée, je dis développer une louange passionnée. Une louange passionnée. Une louange active. Une louange fervente. Une louange où on entend que t'es dans la pièce. Une louange passionnée, de cultiver une louange, de développer cette culture de la louange, apprendre à louer Dieu, en dépit des circonstances, envers et contre tout. Quelqu'un de passionné, c'est quand les éléments sont favorables et quand ils sont défavorables. Quand tu es passionné, c'est envers et contre tout, de développer une louange passionnée. Je sais que quand je dis ça, certains vous disent, hop, 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 la Bible déclare, fuis les passions de ta jeunesse. Oui et amen. Mais elle dit pas, sois pas passionné pour Jésus. Moi, quand je regarde la Bible, je sais pas pour vous, mais moi, dans ma Bible, je vois des hommes et des femmes passionnés. Je vois des gars, c'était vraiment, pardonnez-moi l'expression, des fous furieux de la foi, des gens qui avaient soif, des gens qui avaient envie, des gens qui étaient passionnés. Prenez Paul. Le gars, avant de se convertir, il était passionné, il mettait les gens en prison. Difficile de faire plus grande passion. Mais une fois qu'il a donné son cœur à Jésus, il a pas arrêté d'être passionné. Il a juste arrêté de les mettre en prison. On est d'accord? C'est lui qui est allé. Mais il était passionné, le gars. C'était un homme, quand il était dans sa prison, il louait Dieu. C'est une louange passionnée ou c'est pas une louange passionnée? Prenez les disciples. Si aujourd'hui on connaît l'évangile, c'est parce que ces gens-là sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont parcouru le bassin méditerranéen. Tu fais pas ça si t'es pas passionné. T'es pas prêt à mourir et à donner ta vie pour Jésus si t'es pas passionné. Prenez Jésus. Il était passionné pour nous. Dieu était tellement passionné, il nous a tellement aimé qu'il a donné Jésus. Jésus nous a tellement aimé qu'il a donné sa vie. Comment on appelle sa mort sur la croix et la semaine qui précède? La passion du Christ. Parce que Dieu désire que nous soyons passionnés pour lui. Et puis certains, vous allez me dire, oui, mais notre culture de la France fait qu'on ne peut pas. Ça ne se fait pas, il ne faut pas faire trop de bruit. Et les amis, on est français, pour la grande majorité d'entre nous, en tout cas on est en France. La culture de notre pays, c'est quoi? Moi, je crois que la France, c'est un pays de passionnés. Sinon, on n'aurait pas fait une révolution, on n'aurait pas été résistant, et on ne serait pas connu dans le monde entier pour être les grévistes. Je ne sais pas si vous avez voyagé, mais quand tu voyages, moi, ça m'a vraiment fait mal au cœur. La dernière fois que je suis allé aux États-Unis, je pensais que tout le monde allait connaître de là où je venais à cause de Bordeaux, le vin et tout. Tu parles. Les gens savent que tu es français parce que tu fais grève. Il y en a, vous n'êtes pas convaincus que la France est un pays de passionnés. Pour ceux qui sont toujours pas, qui sont pas encore convaincus, juste une fois dans votre vie, allez dans un stade. Mais juste une fois, s'il le faut, allez-y, juste pour vous convaincre de c'est quoi la passion. La passion, c'est quand même particulier quand tu vas dans un stade. Moi, je me souviens, alors tant pis, je vais passer pour un gros passionné de foot, mais je me souviens, en septembre 2006, il y a un joueur qui est arrivé au Girondins de Bordeaux, un Brésilien. Et le gars, il n'avait pas encore joué le mois d'août, il venait d'être transféré, il arrivait. Premier match à Bordeaux, le gars, il n'a toujours pas porté le maillot, il n'a pas mouillé une goutte de transpiration de son maillot, il n'a pas fait un dribble, une passe, un but, il n'a rien fait, mais il était Brésilien. Et bizarrement, quand tu dis foot et Brésil, tout de suite, c'est ouh, Brésil. Tu sais, c'est tout de suite, c'est Ballon d'Or. Et le gars, il n'a pas gagné la Coupe du Monde, il n'avait pas Ballon d'Or, il n'est pas champion. Il n'est rien du tout, il n'a rien fait. Mais composition des équipes, je me souviens, là, tu as 20 000 personnes. Le gars, il annonce la composition d'équipe et arrive ce joueur brésilien. Geraldo, Mauricio, Silva, Wendel. Et là, tu as 20 000 personnes. Ouais! Là, tu dis, le gars, il n'a rien fait. Mais waouh, Wendel. T'imagines, tu arrives au boulot. Hey, Mathieu Perrault, waouh! Non, en vrai de vrai, si les Français en est capable, soit pour râler, soit pour un gars qui a rien fait pour ta vie, hein, je veux dire, pendant que toi, tu payais 30 euros pour le regarder jouer 1h30, lui, il gagnait 3 fois ton salaire. Bref, et donc, la réalité, c'est que pendant qu'il faisait rien pour ta vie, waouh ! Mais les amis, pour Jésus, qui a changé nos vies, qui nous a aimés, certains, vous étiez dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, dans plein de choses. Il vous a libéré de tout ça, de toutes vos addictions. Il vous a transformé. Il vous a donné un foyer, il vous a donné une famille. Et il a transformé nos vies, il nous a consolés, il nous a restaurés, il nous a réconciliés avec Dieu, il nous a justifiés. S'il y en a bien un qui mérite l'adoration, s'il y a bien un nom qui mérite d'être élevé au-dessus de tout autre nom, c'est le nom qui change les vies, c'est le nom de Jésus. Alors si au stade, on est capable, non, pas encore, si au stade, on est capable, moi je me souviens, j'ai amené les filles au stade, parce que, bref, j'ai amené les filles au stade, et à un moment donné, l'arbitre, il siffle mal, il fait mal son travail, et donc je fais, wow! Et là les filles, mais papa, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, gloire au nom de... Et donc, il faut être réactif. En tout cas, le truc, c'est que si pour juste un fait de jeu, t'es capable de faire, oh, pour Jésus qui est mort pour toi sur la croix, est-ce que tu peux pas pousser un cri de joie? Moi, je crois qu'il mérite. Alors peut-être, ça fait pas partie de ce qu'on a toujours appris, mais c'est, Dieu le mérite. Jésus en est digne. Lisez la Bible. Regardez quand le ciel est ouvert et qu'on voit la louange au ciel. C'est un feu d'artifice, les amis. C'est un bruit de milliers et de milliers et de milliers de gens qui louent et qui célèbrent notre Dieu. Alors je crois que quand on développe, et on est capable et on a le droit, et il le faut, développer une louange passionnée. Ça change tout dans notre vie. Alors je sais que certains, pendant que je le dis, ils se disent, ouais, mais toi tu comprends pas, moi j'ai un problème. J'ai des problèmes dans ma vie. Du coup, c'est difficile pour moi de louer Jésus. Et j'ai eu des problèmes dans ma vie. Mais justement, de développer une louange passionnée, c'est envers et contre tout. Grâce aux circonstances et en dépit des circonstances. J'aimerais vous dire, les vrais passionnés pour Jésus sont ceux qui développent cette louange quand ils viennent te sauver et que tu sors des eaux du baptême, quand ils viennent te guérir et te répondre à tes besoins. C'est aussi quand tu attends la réponse. Et c'est dimanche après dimanche, mais pas que. C'est jour après jour, une culture de la louange, de développer une louange passionnée. Je sais que on a des soucis. Et je sais que du coup, ça environne notre esprit, ça encombre nos pensées, et qu'à cause de ça, ça peut venir nous bloquer. Je suis humain et je traverse ces mêmes moments. Et je sais que ce que je vais dire est très exigeant, très demandant, dur à dire et dur à entendre. Mais la réalité, c'est que c'est justement à ce moment-là qu'il faut louer de manière passionnée. C'est là que tu fais une différence dans ce monde. C'est là que tu es une lumière qui brille au sein des ténèbres. C'est là que tu es le sel de la terre qui te donne de la saveur. C'est là que tu es un ambassadeur du royaume de Dieu. C'est là que tu révèles la grandeur et la puissance de ton Dieu. C'est au sein de tes difficultés. Ce n'est pas les circonstances qui doivent influencer notre foi. C'est notre foi qui doit influencer les circonstances. C'est pas aux circonstances de me dire si je peux louer ou pas Jésus ce matin. C'est ma foi en Dieu qui ne change pas, qui fait que les circonstances vont changer. Et que tant qu'elles ne changent pas, je louerai Dieu quand même. Au lieu de dire à Dieu combien mes problèmes sont grands, de dire à mes problèmes combien mon Dieu est grand, ça change tout. Et j'aimerais vous donner quelque chose, c'est une révélation puissante qui va suivre. Pour créer une oasis dans le désert, les amis, il faut être dans le désert. Si tu veux créer une oasis dans le désert, ben, faut que tu sois dans le désert. Et ta véritable passion pour Dieu va ressortir à ce moment-là. Il y a une image dans le livre de Job. Vous savez que Job a souffert. Job a vécu son lot de souffrances et de difficultés. Il va perdre tous ses biens, il va perdre ses fils, sa femme va lui dire de maudire Dieu. Et tout ça, il vit une période. Il est éprouvé, le gars. Je ne sais pas si on arrive au niveau de Job, mais le gars, il est éprouvé. Et c'est un exemple de patience dans la parole de Dieu pour nous. Un exemple de fidélité à Dieu, envers et contre tout. Et au milieu de ses difficultés, il va dire « Je sais que mon Rédempteur vit, qu'il est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Waouh ! Ça, c'est de la louange passionnée. Et il y a une image à un moment donné, il y a un ami qui vient le voir et qui va lui donner cette image comme d'une terre desséchée, une vapeur. À cause de la chaleur, à cause de la sécheresse, une vapeur qui va s'élever au ciel et puis se transformer en nuage qui va répandre la pluie de bénédiction. De créer cette oasis, d'avoir une louange passionnée qui va se dégager de ce désert et que Dieu va transformer en un lieu plein de sources, en une oasis. Je sais que c'est demandant, je sais que c'est pas simple, mais alors que tu le fais, crois-moi sur parole, tu développes quelque chose, tu changes l'atmosphère de ta vie. La Bible déclare, je m'écris loué sur l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. La Bible déclare, l'Éternel règne au milieu des louanges de son peuple. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est pas comme une formule magique. Je parle pas de ça ce matin. Je dis pas parce que tu vas commencer à chantonner, poum, ça y est, t'as plus de problème, le frigo se remplit, t'as trouvé le travail et tout. Non! Je vous parle parce que tu développes une culture de la louange, une louange passionnée au sein même des difficultés. Ça change l'atmosphère de ta vie. Pourquoi? Parce que t'es en train de créer autour de toi. Alors tu te focalises et que tu fixes tes yeux sur celui qui est éternel, qui ne change pas. Ses promesses sont certaines, elles sont oui et amen en Jésus. Il est hier, aujourd'hui et éternellement toujours le même. Il est celui qui pourvoit nos besoins, qui entend nos prières, qui entend le cri du malheureux, qui connaît nos souffrances, qui voit nos larmes, de celui qui s'intéresse à nous, qui nous aime jour après jour, qui s'est donné pour nous. Alors tu fixes tes yeux sur lui, alors il est celui qui rémunère et qui récompense ta foi. Alors tu as cette louange confiante au sein des difficultés, au sein de tes épreuves, et que tu développes cette louange passionnée, et que tu fixes tes yeux sur Jésus. Qu'est-ce que ça change? Ça change l'atmosphère de ta vie. Pourquoi? Parce que tu es en train de créer une atmosphère où Dieu est celui qui règne. Où il y a une atmosphère de foi qui se dégage, une atmosphère de miracle, de tout est possible. Juste, tu sens les gens, tu sens la soif. Pourquoi? Parce qu'il y a une passion qui est là. Les gens n'arrêtent pas de manger si c'est pas par passion. On est d'accord avec ça? Surtout les Français. Et du coup, tu le sens dans l'atmosphère. Le gars, il a pas commencé à prêcher que tu sens qu'il y a une atmosphère de tout est possible. De, il y a quelque chose qui peut se débloquer dans ma situation. Il y a des malades qui vont être guéris. Il y a des fragiles qui vont être fortifiés. Il y a des affligés qui vont être consolés. Des cœurs brisés qui vont être restaurés. Tu le sens dans l'atmosphère. Ça se dégage. Je peux pas vous le prouver. Je peux pas vous l'expliquer, vous le démontrer par A plus B. Mais c'est réel. Tu le ressens. Quand des gens viennent avec une soif, une passion pour louer Dieu, tu sens une différence dans l'atmosphère. Et ça, c'est en nous, les amis. C'est chacun d'entre nous, si on a cette capacité, ça change. Pourquoi? Parce que tu focalises plus tes yeux sur ton problème. Plus tu focalises tes yeux sur ton problème et plus il va grandir. Même sans grandir. Mais plus il sera grand dans ta vie. Et plus il sera important. Et plus il sera insurmontable. Mets-toi au pied d'une montagne, regarde le sommet. Et tant que tu bouges pas, tant que tu n'avances pas, elle sera toujours aussi grande. Quand tu vas commencer à la gravir jusqu'à aller au sommet, parce qu'on est appelé à aller au sommet, les amis, là, bizarrement, la montagne est plus petite que toi. Elle est toujours plus grande physiquement, mais elle est sous tes pieds. Et je crois une chose, c'est que quand tu considères et que tu dis à tes problèmes combien ton Dieu est grand, tu crées une atmosphère dans ta vie. Tu crées une atmosphère dans la vie de l'église. Pas d'une louange ou... D'une louange passionnée. Tu réalises que Jésus s'est donné pour toi. Et que quand il s'est donné, c'était pas, il donne le petit doigt et puis hop, allez, clouez-moi. Non, il donne tout. Tu réalises qu'il a souffert, tu réalises qu'il a passé 3 ans sur terre, qu'il a quitté plus de 3 ans à parcourir la terre, lui, le créateur, par qui toutes choses et pour qui toutes choses ont été créées, lui, il est né comme un bébé dans une étable. Il a appris à marcher, à écrire, à lire, il a appris un métier juste pour pouvoir te sauver 30 ans plus tard. Si ça mérite pas un peu de passion, je sais pas ce qu'il vous faut. Le jour où on vivra ça, les amis. Cette louange passionnée, cette louange qui dépend de rien, juste de ma soif et de ma foi pour Dieu, de mon amour et de ma connaissance de lui. Là, il y a un plafond qui va être crevé et là, le ciel va se répandre. Mais les amis, ça ne nous empêchera pas de vivre des belles choses, mais on passera une étape supplémentaire. La louange, c'est pas juste quand ça commence là. Mais jour après jour, tu as cette capacité de pouvoir louer Dieu, même sans musique, même si tu chantes faux, tu as cette capacité de louer. Mais par contre, c'est justement de comprendre qu'il faut arrêter de chanter. Donc là, je veux rassurer tous ceux qui chantent faux dans ce lieu. La louange, ce n'est pas de chanter. Et tu peux vivre une louange passionnée sans chanter. C'est formidable, ça. Mais par contre, de louer, d'adorer, de proclamer, d'attester, de déclarer, de prophétiser sur ma vie, que quand je chante ou quand je dis que Jésus, il est mort pour moi sur la croix et qu'à la croix, il a tout vaincu, c'est pas juste je le chante et pendant ce temps, je regarde mon Facebook, j'envoie un texto et je rédige un mail. Non! Je fais à manger un mail. Non! C'est j'atteste, je le déclare, je le proclame. Et s'il le faut, je prophétise sur ma propre vie. Je suis malade, mais je déclare que Dieu est celui qui guérit, encore aujourd'hui. Je fais face à... Il y a toutes sortes d'oppressions qui fait face à moi, mais je déclare, je proclame et j'atteste qu'en Jésus, et à cause de l'œuvre de la croix, les liens sont brisés, les chaînes sont brisées et que les forteresses tombent. C'est pas je chante, les amis, c'est je loue, j'adore, je proclame, j'atteste, je déclare sur ma vie que c'est vrai. Et quand je le fais, Paul dit, c'est pas des discours sages, c'est une démonstration d'esprit et de puissance afin que la croix ne soit pas rendue vaine, littéralement qu'elle soit pas vidée de sa force. Je crois qu'on est appelé à vivre une vie de puissance, une vie d'abondance. Et pour ça, la clé, c'est la louange passionnée. C'est de manière très concrète et de manière très simple que ça se débloque. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui va le débloquer pour sa propre vie et je vais parler de lui dans un instant. Il a débloqué le ciel. Écoutez bien, il a ouvert le ciel sur sa vie avec juste un simple merci. Parce que je crois que le ciel peut s'ouvrir, le ciel est ouvert à la portée d'un simple merci. Cet homme vivait une culture de la louange, il vivait une culture de la reconnaissance, et juste parce qu'il a dit merci à Jésus, le ciel s'est ouvert sur lui. On vit des déserts, on vit des situations compliquées, et j'aimerais vous dire, il y a une clé toute simple, c'est de savoir dire merci, savoir apprécier, être reconnaissant, savoir apprécier les choses de la vie, les gens qui sont dans votre vie, ce que Dieu vous donne et ce qu'il ne vous donne pas, ce quand il répond et quand il ne répond pas, de savoir apprécier les choses que Dieu fait pour nous et qui il est pour nous, et ce qu'il fait dans nos vies et qui il fait de nous. Savoir dire merci, de savoir apprécier, de savoir être reconnaissant. Et il y a un gars qui va vivre ça. Ce gars, c'est un lépreux, et le texte, je vais pas le lire, mais pour ceux qui prennent des notes, les références s'affichent. C'est Luc au chapitre 17, versets 11 à 19. Le contexte, c'est qu'il y a 10 lépreux qui sont là à la sortie d'un village, et ils sont à la sortie d'un village, parce qu'à l'époque, quand tu étais lépreux, c'était une maladie contagieuse, incurable, tout ça, et du coup, surtout, elle était vue comme une impureté. Et du coup, quand tu avais la lèpre, on te faisait sortir du village, on te coupait de ta famille, de ton travail, tu n'avais plus de vie sociale, tu n'étais plus rien, tu perdais ta dignité, tu étais juste condamné à aller en dehors du village et d'être là à l'entrée du village. Mais pas seulement. Comme si ça suffisait pas déjà d'être écarté de sa vie de famille, sa vie sociale, et d'être repoussé par tout le monde et isolé de tout le monde. En plus de ça, c'est que quand quelqu'un approchait, tu devais crier « Lépreux, lépreux !» Voilà que Jésus arrive. Il va passer par leur village et avant qu'il entre, j'imagine leur contexte, ça fait des jours, des années, ils sont là à galérer, ils sont là à être écartés des gens, à devoir crier « Lépreux, lépreux !» Et voilà qu'il y a un cri qui monte dans leur cœur quand Jésus arrive. Ils doivent voir les disciples, ils doivent voir Jésus, et ils ont entendu parler de Jésus. Jésus, il commence pas son ministère, il a déjà guéri des lépreux, et là, dans leur cœur doit monter quelque chose. C'est « Waouh, c'est Jésus !» C'est le gars, normalement, quand on est lépreux et qu'on touche quelqu'un, on le rend malade. Lui, quand on le touche, lui nous guérit. Waouh, s'il y a bien quelqu'un qui peut, s'il y a bien un espoir qui peut arriver à un moment donné, c'est avec Jésus. Et voilà qu'ils vont s'approcher, mais en se tenant à distance, pour pas le toucher. Ils respectent la loi, ils ont un respect de la loi. Mais voilà qu'ils s'approchent de Jésus et qu'ils lui disent « Hé Jésus, aie pitié de nous !» Et Jésus va faire quelque chose qui est énorme. Il va leur dire, allez voir le sacrificateur. Dans la loi, vous trouvez tout ça dans Lévitique 17. Dans la loi, quand quelqu'un était lépreux et qu'il pensait être guéri ou qu'il guérissait, pour constater, pour attester sa guérison, fallait qu'il aille voir le sacrificateur. Et du coup, Jésus les envoie vers le sacrificateur. Comprenez ceci. Aujourd'hui, je veux parler du lépreux reconnaissant, mais je veux pas condamner les 9 autres. Je veux que vous compreniez que les 10 ont eu la foi. Les 10 lépreux sont partis en étant lépreux. La Bible nous dit que quand ils ont dit « Jésus, aie pitié de nous », il leur a dit « Allez vers le sacrificateur ». Il ne les a pas guéris. Il leur a dit « Allez vers le sacrificateur ». Et les 10 partent, ils ont eu la foi. Ils ont obéi, ils ont placé leur foi dans cette parole de Jésus. Et alors qu'ils sont en chemin pour aller voir le sacrificateur, imaginez le risque qu'ils prennent. En étant malades, d'aller voir le sacrificateur pour constater leur guérison. Ils auraient pris cher. Mais voilà qu'ils sont en chemin et ils guérissent. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer cette scène. Moi, franchement, j'aurais voulu la voir. Je sais pas, t'imagines, ils sont 10, ils sont en train de... Et puis, ça devait trotter dans leur tête. Mais pourquoi il nous a dit d'aller voir le sacrificateur puisqu'il doit constater notre guérison, mais on est toujours malade. Et puis, tu as senti quelque chose? Non, rien du tout. Puis là, pendant qu'ils sont en train de marcher, d'un coup, ils sont guéris. Wow, mais c'est un truc de... C'est un truc extraordinaire. Je sais pas, tu t'imagines d'un seul coup? C'est comme si là, tu traverses l'allée, je te dis, vas-y, pars, ton frigo est rempli, tu sais qu'il est toujours vide, et puis tu appelles chez toi, il est toujours vide, et au moment où tu marches, poum, il est rempli. Waouh, truc de dingue, non? Et là, je parle pas d'un frigo, je parle pas de nourriture, je parle de quelque chose qui les condamné. Je sais, c'est l'heure, donc je parle de nourriture, mais ça les condamné, c'était en dehors du village. Et là, ils prennent un risque en y allant, mais ils ont foi, ils saisissent cette parole par la foi. Et voilà qu'ils sont en chemin, ils guérissent. Et du coup, j'imagine les neufs qui se disent, waouh, allons voir le sacrificateur, je vais pouvoir revoir peut-être mes enfants, ma femme, mes parents, mes cousins, mes cousines, mon travail, je vais pouvoir gagner en dignité, je vais pouvoir retravailler, je vais pouvoir revoir mes voisins, ma maison et tout. Et là, ils partent, et c'est normal, et je les condamne pas, et c'est super. Mais il y en a un qui va revenir. Et il va revenir pour une seule raison. Dire merci à Jésus. Cet homme va revenir, et au moment où il va se retrouver face à Jésus, la Bible nous dit, il va se jeter à ses pieds. Et il va lui dire merci. Je sais pas, il vient quand même de te guérir. Du coup, tu retrouves ta famille, ta vie sociale et tout. Si tu te jettes aux pieds de Jésus, je sais pas, brise un parfum, donne de l'argent, beaucoup d'argent, enfin, fais un truc. Non, il a juste dit merci. On est d'accord que merci, par rapport à ce qu'il vient de vivre, niveau proportion, ça va, quoi. C'est pas insurmontable. Je pense qu'on est tous capables de ça. Jésus lui a pas demandé un truc insurmontable. Il a juste dit merci. Il est venu, vous lirez dans votre Bible, il s'est jeté aux pieds de Jésus et il lui a dit merci. Mais il y a plusieurs choses qui m'interpellent. C'est que sur le chemin du retour, quand il revient vers Jésus, la Bible nous dit qu'il glorifiait Dieu à pleine voix. Parce que les amis, quand tu vis quelque chose et que Jésus fait quelque chose pour toi, c'est pas « Oh, gloire à toi, Seigneur, oh merci mon Dieu ». Non, c'est « Waouh, il m'a guéri ! Hey !» Avant, il criait « Lépreux, lépreux !» Maintenant, c'est « Je suis guéri, je suis guéri !» Hey, comment ça va ? Je peux te serrer la main. T'as vu, ma main est propre. Je peux te serrer la main, je te rends pas impur. Dieu m'a guéri. J'ai été voir Jésus. Il m'a dit, il raconte, il glorifie Dieu à pleine voix. Les amis, quand quelque chose fait, quand t'as conscience de ce que Jésus a fait pour toi, ça, ça explose. Parce que c'est quelque chose qui aurait pas dû arriver. C'est même pas quelque chose que t'aurais pu espérer être en contact avec Jésus. Et ce gars-là, il dit, la Bible nous dit, il glorifiait Dieu à pleine voix. Parce que quand tu réalises que Jésus a fait pour toi, il y a une passion qui est débordante de ta vie. Il y a quelque chose qui se passe. Et ceux qui sont chrétiens depuis moins de 3 mois, vous savez de quoi je parle. Mais ceux de plus de 30 ans, j'aimerais vous défier. Il y a une louange passionnée qui doit se dégager de nous. Je dois me poser la question jour après jour. Est-ce que j'ai toujours autant de passion qu'au premier jour? Est-ce que j'ai toujours autant de reconnaissance? Est-ce que je suis prêt à autant de sacrifices qu'avant? Ce lépreux revient à Jésus et la Bible nous dit que Jésus va se tourner vers les disciples et dire, mais les 9 autres n'ont pas été guéris aussi, parce que Jésus fait pas en fonction de savoir si tu vas le louer ou pas. Il fait. Et la Bible dit, Jésus va dire, est-ce qu'il y a que ce Samaritain pour revenir vers moi? Et là, il y a 2 choses qui m'interpellent. La première, c'est qu'au début de l'histoire, il y a 10 lépreux. À la fin de l'histoire, il y a un lépreux Samaritain. Au début, la misère l'a assimilé aux autres. On ne s'intéresse pas d'où il vient, son histoire, sa nationalité, sa culture, son héritage. Il est juste lépreux. Et je crois que les épreuves dans nos vies, quand elles nous touchent, elles ne font pas de distinction. Noir, blanc, jaune, vert, gris, chevelu, pas chevelu, petit, grand, gros, maigre, vieux, pas vieux. Quand ça touche nos vies, ça touche nos vies. On est d'accord avec ça? Mais cet homme va redevenir samaritain une fois qu'il va se jeter aux pieds de Jésus. Et moi, ça me parle. Parce qu'il est samaritain, c'est justement pour ça qu'il est revenu voir Jésus. Parce que les 9 autres, attention, ils ont eu la foi, et ce qu'ils faisaient était dans la loi. Ils obéissaient à Dieu en faisant ce qu'ils ont fait. Mais parce qu'il était samaritain, il était moins attaché aux traditions, moins attaché à l'héritage spirituel, moins attaché au « on ne fait pas comme ça d'habitude, on a toujours fait ainsi ». Non, Jésus est plus important que tout, ce que Jésus a fait dans sa vie est plus important que tout. Donc il va pour se jeter à ses pieds. Mais ça me parle d'autre chose. C'est qu'on découvre, écoutez bien ça ce matin parce que c'est important, on découvre et on développe notre véritable identité que lorsqu'on développe une louange passionnée. Lorsque tu es capable de dire merci à Jésus, un simple merci envers et contre tout, c'est là que tu découvres ta véritable identité en Christ, parce que tu es son enfant. Et au plus tu découvres qui il est, au plus tu découvres qui tu es. Et cet homme va découvrir son identité, va redécouvrir qui il est. Et puis, il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est que, alors qu'il vient pour dire merci à Jésus, les 10 ont été guéris. 9 ont été guéris pour pouvoir retrouver une vie normale. 1 a été guéri pour pouvoir être en contact avec Jésus. Cet homme a compris qu'au début, il ne pouvait pas parler à Jésus à cause de sa lèpre. La lèpre enlevée, il peut parler à Jésus. Et j'aimerais vous inviter à développer une réelle relation personnelle, intime avec Jésus. À ne pas vivre la foi comme une consommation. Et si vous êtes dans cette dynamique-là, qu'il n'y a pas de souci, Jésus vous guérit quand même, Jésus vous bénit quand même, Jésus vous aime quand même. Et la bénédiction du ciel est quand même pour vous. Mais je veux juste nous amener à une bénédiction plus grande ce matin. Pourquoi ? Parce qu'alors qu'il se met au pied de Jésus et qu'il dit juste merci à Jésus, Jésus va lui dire, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Cet homme a connu le salut juste parce qu'il a dit merci. Et je crois que le ciel s'ouvre juste parce qu'on développe une capacité à louer de manière passionnée, à savoir dire merci. Son merci lui a ouvert les portes du ciel. La différence entre lui et les autres, c'est juste que lui, il a dit merci. C'est juste ça. Et du coup, il a été sauvé. Je veux te dire, tu peux ouvrir le ciel sur ta vie. Ce matin, juste en disant merci. Quelles que soient les circonstances. Je sais que c'est demandant, exigeant. Mais alors que tu développes cette louange passionnée, tu ouvres le ciel sur ta vie. Tu crées une atmosphère qui est différente. Juste, et je parle de avec Jésus, mais je parle dans la vie de tous les jours, les amis. Certains pourraient me dire, ouais, mais on est français, on est râleur. Ouais, et alors, on est sauvé, on est enfant de Dieu, on a le droit de changer, non? J'aimerais vous le dire, vous avez le droit d'être gentil, vous avez le droit d'être souriant, agréable, reconnaissant, positif, de souligner, de voir, de constater et de dire les choses qui vont bien autour de vous. Vous avez le droit, vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, vous y êtes même encouragé. Alors si vous ne saviez pas que vous avez le droit, je vous le dis, vous avez le droit d'être gentil, vous avez le droit d'être souriant, agréable, de dire des bonnes paroles à ceux qui vous entourent. Vous avez le droit d'arrêter d'être français, vraiment, mais vraiment. Vous avez le droit d'être des enfants du royaume de Dieu, avec la mentalité du royaume de Dieu, et de savoir apprécier les choses de la vie, de savoir apprécier ton mari, ton épouse, même avec son fichu caractère, de savoir l'apprécier. Le nombre de gens qui aimeraient te marier, les amis. Tu as le droit d'apprécier tes enfants. Et je sais que c'est dur quand je dis ça. Parce qu'alors que je le dis, je sais qu'il y en a quand ils rentrent, ils vont retrouver leur ado, leur adote, qui aura bu toute la soirée, qui sera ivre, allongé par terre, drogué, tout ça. Et je sais que c'est dur à vivre. Mais j'aimerais t'amener dans une louange passionnée au sein même de ces circonstances. Parce que tu vas changer l'atmosphère de ta vie. Tu vas changer le climat de ce qui se passe autour de toi. Tu vas changer ce sur quoi tu fixes tes yeux. Tu vas les fixer sur ce qui est éternel. Tu vas les fixer sur ce qui est tout puissant. Ce qui est impossible. Ce qui est insurmontable pour toi, mais que Dieu veut t'aider à surmonter. Développer une louange passionnée, de savoir dire merci pour les choses qu'on a, ça c'est humain, de savoir dire merci pour les choses qu'on n'a pas, ça c'est divin. Il y a des choses, Dieu les fait exprès de ne pas nous les donner, pour notre bien, et de savoir dire merci à Dieu pour ça. Bref, je peux remercier Dieu pour les choses toutes simples de la vie. Je suis en santé, je peux faire ceci, je peux faire cela. De savoir aimer la vie tout simplement. Et l'auteur de la vie. Et dans votre foi, de savoir être reconnaissant envers Dieu. Alors qu'on va s'engager dans cette louange passionnée, l'atmosphère de notre vie va changer, l'atmosphère de l'église va changer. Vous savez, la semaine dernière, je racontais dans mon message que j'étais coincé 4 heures dans un avion, qui était en retard et tout ça. Les amis, à partir du moment où j'ai décidé de me lever, d'aller au fond de l'appareil et de louer Dieu, j'étais toujours dans l'avion, j'étais toujours bloqué, il démarrait toujours pas. Mais l'atmosphère de ma vie a changé. L'atmosphère de mon cœur, mes pensées, tout a changé. Pas parce que c'est magique, mais parce que tu amènes le règne de Dieu dans ta vie. Tu amènes la réalité du ciel dans ta vie. Et ça, ça change jamais. Et ça, c'est toujours et toujours et toujours plus grand. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et alors que tu loues celui qui est le plus grand, mais celui qui est contre toi, il devient plus petit. Dans mon désert, j'ai cette capacité de trouver une oasis. J'ai cette capacité d'être une oasis pour ceux qui m'entourent.
Ce message a été enregistré à l'église Momentum de Bordeaux. Pour le réécouter, rendez-vous sur eglisemomentum.com.
Cause I'm moving at God's speed. Don't let the cherry chase me.
Sons of Sunday, Running with Angels sur Phare FM, il est 4h49 et c'est la radio Autrement qui vous accompagne dans la nuit Autrement et c'est jusqu'à 5h, on est lundi le 8 juin, bienvenue, vous écoutez Phare FM, je vous souhaite un bon réveil, une excellente journée et aussi une très très bonne semaine. En poursuit en musique avec Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, suivi de Stephen Stanley, Nevermind, et puis Les Langages de l'Amour, ce sera ensuite.
Stuck in my head, this apartment's getting colder, colder. Gotta get out. Long night, stuck on low pay, stuck in my ways, turning circles, circles, dreaming about. Take a chance. Ain't got forever. We only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans. Take a chance, take a chance. Ain't got forever. We only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. I'm waiting. I'm not fighting, keep it inside. I'm always fighting and flying, just surviving, trying to hide time. If it comes in waves, then why run away? Knowing that it's out of my hands. There's not a day that you haven't made. My control was never part of the plan. All those days and nights I was driving blind. There was a reason I came back alive. You were close to me when I tried to hide. Never a day that you passed me by. You made our time painted blue in the sky. Held tears I was keeping inside. It's funny how my instinct to spiral, nothing is final until the end.
My hope sits on a tightrope. So I pray with my eyes closed and start to give in. Fate comes in waves and while I run away, knowing that it's out of my head. There's not a day that you haven't made. My control was never part of the plan. All those days and nights I was driving blind, there was a reason I came back alive. You were close to me when I tried to hide. Never a day that you passed me by. You made our time paint it blue in the sky. Held tears I was keeping inside. It's funny how I was driving blind. There was a reason I came back alive. It's funny how I had a grip on my life when I was holding what was never mine. Never mine.
FM. Les langages de l'amour.
Si je devais donner la seule clé capable de vous ouvrir la porte à un mariage heureux, je dirais une attitude réciproque de service. Quand le mari et la femme se demandent l'un l'autre « Comment puis-je te servir ?» alors, à coup sûr, les besoins seront comblés. Maintenant, cela doit être réciproque. Un mariage heureux est impossible avec une épouse soumise et servile, avec un mari tyrannique et exigeant. L'épanouissement conjugal ne viendra pas plus d'une femme dominatrice et d'un mari passif. Le mari doit apprendre à servir sa femme comme le Christ a servi l'Église. La femme doit servir son mari comme le Seigneur. Le service réciproque apporte une joie mutuelle. Les joueurs de tennis passent des heures chaque semaine à améliorer leur service. Pourquoi ne pas faire de même pour votre mariage ?
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Maudit de Chicago en partenariat avec Phare FM.
Et nous voilà arrivés au bout de la nuit autrement, et je vous retrouve cette nuit à minuit. Dans quelques minutes, votre prochain rendez-vous, l'équipe de Bonjour chez vous. Et pour ma part, je vous souhaite un très bon réveil, une excellente journée, un très bon lundi, et en avance, une excellente semaine. Merci de rester avec Phare FM. On écoute Carly and Tyler et la chanson Why Should I Worry. À très bientôt.
Why should I worry? And why should I feel? Just look at the lilies and wipe off those tears. Tomorrow's frustrations will come on their own. So focus right now and focus on home. You make my striving cease. You lift my burden. Stress, not a care, they just know that you're there. And that's just who you are. You make my striving cease. You lift my burdens off of me. You calm the rage and see my anxieties. Cause that's just who you are. You make me whole again. Your love is constant, there's no end. You calm the rage and see inside of me. Cause that's just
my striving cease. You lift my burdens off of me. You calm the rain.